Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la formulation de la pensée stratégique d'Emmanuel Macron et plus largement de la question de la maîtrise des armements, j'ai le plaisir de recevoir deux chercheurs spécialistes de questions d'armement et de désarmement à l'échelle mondiale et notamment de questions nucléaires, à savoir Corentin Brusselin, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Et Emmanuel Maître, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour et merci beaucoup d'être là.
Bonjour.
Alors, je vais dire aux auditeurs que c'est une émission qu'on avait en fait prévue il y a maintenant plusieurs mois, à l'occasion du discours d'Emmanuel Macron sur la stratégie de défense et de dissuasion, le 7 février dernier, juste à côté de l'endroit où on enregistre aujourd'hui, d'ailleurs à l'école de guerre. Et il faut préciser que c'est quand même quelque chose d'assez important, ce discours, parce que c'est un événement assez rituel. Il y en a généralement un par quinquennat, où le président de la République parle de dissuasion nucléaire et formule en quelque sorte sa position et la position de la France sur la question. C'est évidemment au cœur de vos domaines de compétences, à tous les deux, et vous l'avez donc largement commenté à chaud, à la fois sur les réseaux sociaux et dans des articles, et c'est pour ça qu'on avait planifié cette émission. Mais évidemment, tout ça a été un peu emporté par une actualité un peu plus brûlante dans les semaines qui ont suivi, à savoir une pandémie mondiale et un confinement généralisé. Pour autant, ça n'est évidemment pas périmé, s'il y a un discours tous les 5 ans, c'est évidemment qu'il est fait pour durer un peu, mais disons qu'il a été assez augmenté par une certaine actualité en plus de ces 4 derniers mois, ce qui va permettre évidemment de s'y intéresser, mais aussi de prolonger son analyse, notamment à la lumière d'un certain nombre d'événements dans le domaine de la maîtrise des armements. On en reparlera, mais évidemment par exemple les rebondissements et le haussement de ton relatif entre la Russie et les États-Unis sur divers traités internationaux. Alors, déjà, partons donc de ce discours du 7 février dernier, puis ensuite, évidemment, on élargira la focale. Et disons, pour mettre les pieds dans le plat, je vais vous dire tout de suite qu'il me semble qu'il y a une difficulté pour les gens comme moi, par exemple, qui s'intéressent à ces questions, mais qui n'en sont pas non plus des spécialistes assidus comme vous, c'est qu'il y a souvent une réelle difficulté à saisir, disons, l'intérêt et l'originalité d'un discours comme ça. Je veux dire, j'entends bien que ce soit utile de formuler la position de la France, bon, surtout à un public d'officiers de haut rang, comme c'était le cas à l'école de guerre. Mais enfin, c'est une position qui évolue pas radicalement d'un président à l'autre. D'ailleurs, Dieu merci qu'on change pas complètement d'avis sur la stratégie de la France et sur la dissuasion nucléaire tous les 5 ans. Et du coup, de l'extérieur, on a souvent l'impression que ça varie un peu, disons, de l'épaisseur du trait, mais pas tellement plus. Évidemment que les fondamentaux peuvent être la souveraineté stratégique, l'importance de la dissuasion nucléaire, la lutte contre le terrorisme ou encore la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Évidemment que ça reste d'un président à l'autre. Donc j'aurais envie de commencer par vous demander à chacun de m'éclairer, mais je suppose, je soupçonne que je ne dois pas être le seul à ne pas totalement m'y repérer, et de me dire ce que vous avez retenu de réellement marquant de ce discours d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous est apparu de vraiment important, voire d'original, qui puisse en quelque sorte marquer et singulariser ce discours-là par rapport à d'autres discours précédents de président de la République. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Corentin Brusselin ?
Oui. C'est intéressant comme point de départ parce que dans notre microcosme de nucléariste, le discours, c'est quelque part l'événement attendu, j'exagère un petit peu, mais c'est un des événements attendus à la fois en France, dans la communauté, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir des inflexions ? Est-ce qu'il faut apporter des inflexions ? Est-ce qu'il faut que l'environnement stratégique qui se dégrade devant nos yeux à mesure des mois qui défilent, est-ce qu'il faut que ce soit quelque part, que ça invite des adaptations de la doctrine et lesquelles ? Est-ce qu'il serait nécessaire d'envoyer des signaux différents à travers cette doctrine? Et en fait, le discours du président, comme vous l'avez dit, en France, en tout cas, c'est ce qui tient lieu de doctrine. Fondamentalement, c'est là que peut survenir une adaptation. Et c'est là que sont survenues les adaptations précédentes. Et donc, dans ce cas-là, je trouve que c'est intéressant, parce qu'effectivement, ça, de l'extérieur, c'est parfois de l'épaisseur du trait, et de fait, c'est parfois à une virgule près, c'est parfois une pause, c'est parfois, c'était le cas, je repense, au discours de François Hollande, par exemple, il y avait parfois des formules qui étaient... systématiquement, même, les formules qui sont retenues dans le discours présidentiel font l'objet des attentions extrêmes, parce que chaque formule a des conséquences extrêmement lourdes en termes de planification des forces, en termes de négociations internationales. Et la doctrine, vu ce qu'elle stipule la place de l'arme nucléaire dans la stratégie française, elle renvoie à des obligations de la France à l'échelle internationale, notamment dans le cadre du traité de non-prolifération, où on s'est engagé à un certain nombre de choses. Et donc, c'est attendu non seulement en France et à l'étranger. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, bon, effectivement, c'est pas un discours révolutionnaire. On s'attendait pas à ce que ce soit un discours révolutionnaire. Et quelque part, je suis heureux que ce ne soit pas un discours révolutionnaire parce que on sentait qu'il y avait.
Oui, il y a rarement des coups de théâtre. On abandonne l'arme nucléaire, c'est fini.
Non, mais on a un président qui aime la disruption et qui a eu recours au cours des années passées, notamment sur les questions européennes et transatlantiques. Pas forcément avec des changements politiques majeurs, mais avec des phrases lâchées peut-être un peu avec facilité à certains moments, et qui contrastaient justement avec la vraie politique suivie, avec les orientations de fond du gouvernement, et qui facilitaient pas la tâche d'explication et de négociation avec les partenaires et les alliés. Et donc, quelque part... Trop de disruption dans le discours du président sur la dissuasion, c'est contre-productif. Donc il y a des adaptations qui peuvent être que, à mon sens, qui ne pouvaient être que marginales, y compris là où on l'attendait sur les aspects européens.
Bah alors justement, allons-y. Donc Emmanuel Maître, quelles sont, puisqu'on a bien compris que c'était une affaire de virgule et de tournure et de formulation, quelles sont, disons, les orientations qui vous ont marqué le plus dans ce discours?
Ouais, pour répondre aussi peut-être à votre question de départ, quel est l'intérêt de ce discours? C'est vrai qu'en France, on a tendance à dire que la dissuasion, c'est le président, et que c'est important qu'à un moment, il donne sa vision personnelle de cet outil qu'il est le seul à pouvoir entièrement commander et qui est vraiment à sa disposition ultime. Donc ça, c'est quelque chose qui est attendu, parce qu'en effet, il y a un aspect presque personnel sur comment lui, il verrait les choses et comment il les voit, bien sûr, dès le temps de paix. L'autre aspect qui m'a intéressé, que j'ai trouvé notable dans ce discours par rapport notamment au précédent, c'est qu'il était très long et que la dissuasion était vraiment insérée dans une mise en contexte beaucoup plus large des affaires stratégiques et de la vision stratégique que peut développer Emmanuel Macron. Et en fait, alors que notamment le discours précédent...
Discours précédent, c'est celui de François Hollande.
Tout à fait.
Donc oui. C'était en quelle année?
2015.
C'était plus condensé, les aspects doctrine, les aspects maîtrise des armements, etc. Là, c'était vraiment inséré dans une sorte de filigrane de propos où on parlait aussi bien de souveraineté économique sur des secteurs stratégiques que de relations européennes, de construction d'une vision stratégique européenne, etc. Donc cette mise en contexte était importante pour dire, voilà, en 2020, pourquoi est-ce que la France estime qu'elle a besoin d'une dissuasion nucléaire? Pourquoi le contexte nécessite d'investir et de réinvestir dans ce domaine-là? Moi, ce qui m'a marqué également, c'était de voir dans quelle mesure ce discours cherche à répondre aussi aux questions qui sont pas forcément souvent abordées en France, mais qui peuvent exister dans d'autres pays et en fonction des régions, de dire, voilà, est-ce que vraiment en 2020 la dissuasion nucléaire est toujours nécessaire? Est-ce qu'elle est éthiquement soutenable, etc.? On a bien sûr les appels du pape en faveur du désarmement, l'existence d'un traité d'interdiction des armes nucléaires, et donc dans ce discours, il y a une réponse à ces aspects-là avec une justification éthique de la dissuasion nucléaire dans le contexte actuel. Ça, c'est un aspect un petit peu novateur et qui montre bien pour moi cette idée de vouloir dire, pour le président, la dissuasion est nécessaire en 2020, est justifiable, et pourquoi et comment.
Oui, donc ça s'insère dans une sorte d'esprit du temps, puisqu'effectivement, il y a eu une sorte, si ce n'est d'offensive, mais en tout cas de vague, de conjonction, d'initiatives qui appelaient au bannissement successif des armes nucléaires. On pourrait évidemment reparler de tout ça, de ce contexte et de... ce qu'il y a de, enfin, dans quelle mesure est-ce que ça a des chances de s'implémenter, Quentin Mousselin?
Oui, je partage tout à fait ce qu'a dit Emmanuel, et je trouve qu'un des éléments très importants de ce discours, c'est justement qu'il est cohérent. C'est-à-dire qu'il explique non seulement pourquoi on a besoin d'une dissuasion selon le président de la République, ce qui est important, mais quelque part, quand on avait le discours de François Hollande il y a 5 ans, on avait un discours assez défensif sur voilà pourquoi il faut, de manière très explicite, on a besoin de s'accrocher aux armes nucléaires pour telle et telle raison, le monde va mal, c'était juste après la Crimée, c'était juste après un certain nombre de choses.
Si c'était 2015, ça devait être aussi en plein milieu d'une période marquée par les attentats, j'imagine que ça devait s'inscrire, disons, dans une pensée sécuritaire qui avait peut-être d'autres actualités à ce moment-là aussi.
C'était, oui, absolument. C'était après Charlie Hebdo, mais avant novembre. Mais disons qu'il y avait un peu une dimension défensive où on en était encore, j'ai envie de dire, au stade où il fallait encore expliquer pourquoi la diffusion, ça restait important dans cet environnement-là. Là, je trouve que le discours est intéressant parce qu'il est plus, il expose plutôt une vision, c'est-à-dire il se porte plutôt vers l'avenir, c'est-à-dire on a l'impression qu'il, mais ce qui est quelque chose que Emmanuel Macron avait déjà dit depuis le discours de la Sorbonne en fait, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité à saisir, une opportunité qui se joue, qui va bien au-delà de l'échelle nationale et qui s'articule, qui doit impérativement s'articuler à l'échelle européenne. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit évidemment avec les limites de cette de notre capacité à emporter cet élan européen, et on la voit depuis 2-3 ans de toute manière, et depuis toujours quelque part, mais on a quand même cette espèce de vision qui est là et qui met en cohérence à la fois la dissuasion nucléaire, mais en fait les éléments sur la dissuasion sont il ne parle pas de capacité du tout, il n'explique pas pourquoi il faut 2 composantes, il n'explique pas, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il ne revient pas, mais
oui, les capacités, c'est-à-dire il ne parle pas des avions, il ne parle pas des sous-marins, il ne parle pas du nombre de têtes, alors que ça, c'est des choses que François Hollande avait pu faire.
Il parle du nombre de têtes pour redéfinir ou rappeler le chiffre connu, le chiffre officiel qui est moins de 300, parce que là-dessus, le discours de François Hollande, il y avait eu un petit glissement qui avait eu lieu. Et donc,
Le glissement ?
C'était qu'il avait enlevé du discours moins de 300. Il avait dit 300, c'est-à-dire 300. Or, le nombre tel qu'il est connu, tel qu'il est communiqué, c'est moins de 300. Donc, rien que ça, rien que ce changement, au moment
on voit bien l'importance de la virgule et de l'adverbe.
Mais ça avait été, évidemment, qu'il y avait des personnes qui s'étaient emparées de ça pour dire « Mais attendez, est-ce que la France a plus d'armes nucléaires en 2015 qu'en 2008 ?» Donc, voilà, quelque part, c'est important d'être sensible à ces nuances-là. Donc, il y a cette cohérence-là qui inscrit la dissuasion nucléaire dans une stratégie de défense d'ensemble. Et j'ai envie de dire dans une diplomatie, c'est-à-dire que les propositions qui sont faites vis-à-vis de l'Europe, sur lesquelles on reviendra peut-être, elles s'inscrivent, elles sont mises en cohérence avec le discours qu'il a fait, les propos qu'il a tenus sur l'Europe, sur l'initiative européenne d'intervention, sur la nécessité de construire une culture stratégique européenne, la nécessité de renouveler un agenda sur la maîtrise des armements, sur laquelle on reviendra aussi, et même sur la nécessité d'avoir une loi de programmation militaire très ambitieuse, plus ambitieuse que n'importe quelle autre depuis la fin de la guerre froide. Donc tout ça, cette cohérence me paraît très importante. Et les aspects éthiques, et très rapidement, je trouve que Emmanuel a tout à fait raison de les souligner, parce que, en fait, quand on regarde le panorama nucléaire, on voit à la fois un débat grandissant sur la justification du maintien de la diffusion nucléaire, qui est un débat dans les démocraties essentiellement. Et à côté de ça, on voit soit des programmes de modernisation, des programmes des arsenaux assez dynamiques et des déclarations assez irresponsables de certains de nos alliés même. Et quelque part, on n'a pas, il n'y avait pas jusqu'à présent de posture de dissuasion assumée qui articule le maintien d'une stratégie nucléaire et la défense du multilatéralisme. Et pourquoi en fait les deux pouvaient être cohérents? Pourquoi est-ce que les deux pouvaient être éthiques et responsables?
Oui, bah, tout à fait. Bah, alors on va peut-être y passer, disons, plus directement à cette dimension européenne, puisque c'est un des grands points, c'est un des grands axes. C'est l'idée non seulement qu'il y a des intérêts stratégiques communs, voire même des intérêts vitaux, ce qui induit en fait, si la France reconnaît que l'Europe fait partie de ses intérêts vitaux, bah, ça induit que par essence les pays européens sont plus ou moins bénéficiaires de la dissuasion nucléaire française, puisqu'on ne peut pas y attenter sans attenter aux intérêts vitaux de la France. Donc c'est disons, que faire de cette position-là ? Est-ce que c'est, dans une certaine mesure, une manière de rassurer des voisins, de rassurer des partenaires européens, disons, d'étendre la couverture de la dissuasion nucléaire française aux voisins et aux partenaires ? Emmanuel Maître ?
Alors, rassurer, je ne sais pas si c'est le terme, parce que il n'y a pas forcément une demande du côté de l'Europe, une attente énorme que la France vienne étendre ce bouclier et vraiment apporter une garantie.
Ça veut dire qu'on ne sera pas les sauveurs masqués de l'Europe.
En tout cas, c'est pas ce à quoi ils s'attendent. Donc, on n'a pas cette impression-là. En revanche, c'est clairement cohérent, comme Corentin le disait, avec la vision du président Macron pour une Europe beaucoup plus autonome dans sa défense, partageant, on l'a dit, des intérêts, mais aussi des moyens de pouvoir assurer sa défense en partenariat, bien sûr, avec son allié américain. C'est pas du tout en opposition par rapport à ça, et puis maintenant la Grande-Bretagne, mais de manière quand même un petit peu plus unie. Alors après, voilà, ça c'est l'offre qui est faite, et il y a un intérêt là-dessus. Je pense qu'il y a un certain nombre de partenaires qui sont d'accord pour réfléchir à une Europe plus intégrée au niveau de la défense. Par contre, il y a quand même pas mal de malentendus, sans doute encore, qui existent sur le rôle que peut avoir cette dissuasion française. Et ces malentendus, en fait, ils sont à Paris et ils sont dans les capitales européennes. À Paris, dans la mesure où on a toujours dit que notre dissuasion était absolument indépendante, nationale, souveraine, donc la marge de manœuvre pour intégrer des alliés dans les discussions et a fortiori dans la mise en œuvre opérationnelle, elle est extrêmement réduite.
On ne va pas prêter des têtes, quoi.
On ne va pas prêter grand-chose. Et puis, dans les capitales européennes, il y a une double méfiance. Déjà, il y a des pays qui ne veulent pas être sous parapluie nucléaire d'aucun pays. Ils sont assez peu nombreux, mais aujourd'hui, ils existent. L'Autriche, par exemple, clairement. Dans d'autres pays, en Scandinavie, etc., c'est moins vrai, mais ça reste quand même... La population, les partis politiques, etc., sont très frileux sur cette question-là. Et puis, il y a des pays qui ont peur qu'en acceptant, en quelque sorte, une garantie française, ça sous-tende qu'ils n'ont plus tellement besoin de la garantie américaine, et donc ils ne veulent surtout pas que ça devienne une prophétie autoréalisatrice, et que les Américains se disent « bon, bah, dans ces cas-là, on peut se désengager ».
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est, en même temps, il faut replacer ça aussi dans un contexte plus large, notamment du point de vue otanien, puisque ça vient évidemment quelques mois après que Emmanuel Macron ait dit, bon, assez célèbrement, que l'OTAN était en état de mort cérébrale, ce qui, au moment où il l'a dit, apparaissait assez dans l'esprit du temps, mais qui, bon, évidemment, plusieurs mois plus tard, est peut-être un peu plus gênant. C'est-à-dire, est-ce que, si on rapproche ces deux choses, c'est-à-dire l'idée éventuellement d'une extension, en tout cas d'un partenariat avec tout ce que ça peut avoir de nébuleux sur les détails concrets avec les pays européens, et en même temps ce constat que l'OTAN est en situation difficile, est-ce que ce ne serait pas dans une certaine mesure une ouverture pour que, je ne sais pas, peut-être la France réorganise sous son leadership des partenaires en désarroi face aux évolutions américaines ? Corentin Moisselin ?
Ouais, disons que l'un des éléments qui a fondamentalement changé depuis 2015, c'est moins la transformation des menaces, pour être franc, que l'incertitude sur les alliés. Et en fait, il y a une vraie rupture qui a eu lieu depuis 2015. S'il y en a une, c'est celle-là, en fait. C'est qu'en fait, il y a une inquiétude grandissante qui dépasse, là encore, le cadre national, sur la valeur des garanties de sécurité offertes aux États-Unis sur le temps long. J'ai envie de dire, Trump en est un symptôme, mais, et notamment son approche transactionnelle des alliances dont vous avez déjà parlé dans ce podcast, mais aussi à plus long terme, quelque part, il y a une inquiétude plus profonde sur la montée de l'Asie dans les préoccupations américaines et l'ampleur des engagements que les États-Unis seront prêts à maintenir vis-à-vis de leurs alliés européens. Et il y a un discours très constant du point de vue américain qui consiste à dire « il est temps que vous preniez en charge, il est temps que vous vous preniez en main sur des questions stratégiques », qui est un double discours, parce qu'ils sont aussi schizophrènes à leur manière, c'est-à-dire « il faut que vous investissiez dans l'OTAN pour qu'on y reste, mais il faut aussi que vous vous preniez en charge ».
Donc quoi, Emmanuel Macron dit un peu chiche par ce discours d'une certaine manière ?
Il dit les deux. Emmanuel Macron, à mon sens, dit d'une part, on ne peut pas ne pas entendre ce qu'on nous dit, on ne peut pas ne pas voir le risque que pose ce changement générationnel et ce changement de culture politique et stratégique aux États-Unis, si jamais il s'avère durable. Et d'un autre côté, il explique que, quelque part, un des éléments fondamentaux et nécessaires d'une approche d'un lien transatlantique renouvelé, c'est qu'en Europe, on soit sérieux sur les questions stratégiques. C'est-à-dire qu'on arrive à réfléchir ensemble sur les questions stratégiques, qu'on investisse dans nos capacités, déjà qu'on rééquilibre un peu le partage du fardeau avec les Américains, et donc qu'on soit plus crédible militairement. C'est pour ça que c'est important d'avoir les différentes briques de la démarche actuellement poursuivie en tête. C'est pas simplement on va amener le nucléaire à l'échelle européenne parce que Trump explique qu'il sera pas forcément il engagerait pas les États-Unis derrière l'article 5 dans toutes les circonstances.
Donc l'article 5, on va juste préciser encore une fois, c'est l'article 5 de la charte du traité de l'Atlantique Nord qui implique que si un État est attaqué, automatiquement les autres États doivent venir le défendre, ce qui est l'espèce de...
C'est la défense collective, voilà. Absolument. Mais voilà, donc tout ça pour dire que cette dimension européenne, déjà, elle s'inscrit dans le temps long. De la dissuasion française, elle s'inscrit dans le temps long. Il y avait déjà des éléments qui portaient là-dessus dans le discours de François Hollande. On a vu d'autres éléments depuis quasiment l'origine, en fait. Parce que ça n'a jamais été pensé, et ça ne pouvait pas être pensé, cette stratégie française, en isolation complète vis-à-vis de son environnement. Ça aurait été une aberration. Mais ce qui est vrai, c'est que la marge de manœuvre sur les incréments, les adaptations et les propositions qu'on pouvait faire étaient extrêmement limitées, parce qu'on ne peut pas décréter qu'on ne veut pas se substituer aux États-Unis déjà, et on ne peut pas protéger des alliés qui ne demandent pas de protection. Donc il faut trouver une espèce d'entre-deux pour essayer de continuer à réfléchir ensemble et de montrer quelque part la manière dont des garanties françaises pourraient s'articuler avec des garanties américaines qui pourraient s'articuler elles-mêmes avec la posture de l'alliance dans son ensemble. Et je pense que c'est vraiment l'esprit qu'on retrouve derrière les deux propositions, à la fois d'un dialogue avec ceux qui veulent et ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, c'est-à-dire complètement ad hoc, ni dans l'UE ni dans l'OTAN. Et aussi une participation aux exercices.
Oui, c'est ce que j'allais dire, peut-être parler de ce que ça pourrait être très concrètement, cette participation. Alors, on a, bon, encore une fois, c'est de la virgule, c'est de la tournure de phrase, mais il a été dit donc, dans ce discours qu'il pourrait y avoir une plus grande intégration, voire une culture stratégique commune, grâce à des exercices de soutien aux missions de dissuasion. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est des ravitaillements? Enfin, je sais pas,
Alors, on peut dire que ça n'est pas. Et ça n'est pas toute chose qui pourrait compromettre le caractère fondamentalement indépendant de la mission de dissuasion. C'est-à-dire que dans les exercices, la France doit être capable, par ses propres moyens, de mettre en œuvre l'ensemble de la mission nucléaire. Donc, à partir de là, par exemple, le cas du ravitaillement semble pas forcément opportun, puisque c'est quelque chose que la France doit être capable de faire toute seule, en toutes circonstances. Peut-être plutôt dans la...
Donc ravitaillement, c'est forcément des avions, évidemment, puisqu'on va rappeler, il y a deux composantes de la dissuasion. Il y a les forces aériennes stratégiques qui sont les avions, et puis il y a évidemment les SNLE, qui, ça, du merci, n'ont pas besoin d'être ravitaillés a priori en cours, puisque c'est la beauté des réacteurs nucléaires. Mais donc ce serait des ravitaillements, par exemple, d'avions en vol, quoi.
Oui, tout à fait. Donc, et en plus, ça, c'est quelque chose qui est vraiment considéré comme fondamental dans la capacité à projeter de manière lointaine les forces aériennes stratégiques. Donc peut-être dans des exercices de jouer la défense, des missions d'accompagnement un petit peu moins centrales, mais pour l'instant, il n'y a pas, à ma connaissance, de propositions concrètes où il n'y a pas eu de choses qui ont bruité sur ce que ça pourrait être dans les faits.
Mais on peut imaginer, en fait... Disons qu'il y a un spectre de possibilités qui commence avec la présence d'observateurs dans les postes de commandement ou à côté, même dans un autre cadre que les postes de commandement, que dans le sanctuaire absolu des forces nucléaires, lors de ces exercices-là. Rien que voir, observer certaines choses, ça pourrait être une première étape. Après, vous avez...
Parce que là, pour l'instant, ça n'existe pas du tout. C'est sanctuaire. Enfin, voilà. OK.
Pas à ma connaissance.
Je sais pas.
Pas à ma connaissance.
Je ne suis pas non plus. Donc voilà.
Si ça existe, j'imagine que ce serait plutôt avec des Britanniques ou des Américains, mais je n'en ai pas eu vent. Mais donc, on peut imaginer ça. Effectivement, après, il y a des choses qu'on peut chercher à montrer ou sur lesquelles on peut souhaiter sensibiliser les Européens, particulièrement parce qu'elles seraient en complément de ce qui se fait à l'OTAN. Par exemple, à l'OTAN, le partage nucléaire qui implique donc les armes nucléaires américaines basées en Europe et cinq alliés qui, qui emporterait ces armes. Et donc, ces armes, ce sont des B-61, c'est-à-dire des armes, des bombes à gravité. Il faut les emporter jusqu'au-dessus de la cible et les lâcher.
Et des bombes à gravité, c'est-à-dire c'est pas un missile, quoi. C'est, ça tombe.
Oui, ça tombe. Ça peut planer un peu, okay. Mais ça tombe quand même.
Okay.
Donc ça va pas très loin.
Mais bon, il n'y a pas des réacteurs, enfin, c'est pas des missiles balistiques, c'est, voilà, faut passer par-dessus la cible.
Exactement, c'est pas propulsé. Et donc, à partir de là, en France, comme vous le savez, on opère le vecteur des armes nucléaires pour les forces aériennes stratégiques et la force aéronavale nucléaire, que vous n'avez pas mentionné, qui est la composante non permanente. Le vecteur, c'est la SMPA, c'est-à-dire un missile de croisière supersonique. Et donc, il est supersonique, donc il est pénétrant, il peut être tiré de plus loin. Les concepts d'emploi sont différents. Quelque part, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut montrer? Parce que quand on dit dans le cadre de l'Alliance Atlantique que la dissuasion nationale de la France contribue à la sécurité de l'Alliance et que les garanties offertes s'ajoutent aux garanties américaines quelque part, alors, ce ne sont pas des garanties offertes d'ailleurs, mais en gros que voilà, il y a une contribution française indépendante et autonome et une valeur ajoutée, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça peut vouloir dire qu'en fait, avec des armes qui sont basées en Europe, on peut faire des choses qui sont différentes de ce qu'on peut faire avec des armes américaines. Rien que montrer, illustrer les concepts d'opération et les concepts d'emploi qui pourraient être employés avec des ASMPA, ça peut être une option. Et même j'ai envie de dire, en ce qui concerne la force océanique stratégique, bon, on va pas...
La force océanique stratégique, ce sont les sous-marins.
Qui sont les sous-marins nucléaires, soit lanceurs d'engins, soit d'attaque. On peut imaginer, pas évidemment des exercices qui impliquent la détection des SNLE, parce qu'ils sont indétectables de toute manière, bien sûr. Mais des exercices de lutte anti-sous-marine de manière générale, ou de guerre des mines. Parce que si on réfléchit à la crédibilité de la dissuasion nucléaire française, notamment de la force océanique stratégique, elle repose à la fois sur les capacités nucléaires, mais aussi sur toutes les capacités d'accompagnement qui protègent ces capacités dans les moments où elles sont vulnérables, notamment à la sortie du goulet de Brest. Donc on peut démontrer ces capacités-là et pour dire voilà ce que c'est que la crédibilité, voilà pourquoi c'est important de maintenir un modèle d'armée cohérent comme on le fait, etc. etc.
Non mais alors, maintenant on peut passer, disons, à une sorte de deuxième moment, enfin une autre grande dynamique de ce discours qui va nous emmener naturellement vers le reste de l'émission. C'est aussi une insistance sur la maîtrise des armements, nucléaires à l'échelle mondiale. Alors c'est en conjonction, puisque notamment Emmanuel Macron en a profité pour inviter les partenaires européens à, disons, s'activer sur le sujet, à sortir d'une sorte de passivité sur le sujet. Mais disons, quelle est la vision, quel est l'objectif qui est déployé par Emmanuel Macron à cette occasion-là, Emmanuel Maître?
Oui, alors je pense qu'il y a deux grands objectifs. L'un qui est... de manière assez classique, de voir la maîtrise des armements comme une activité diplomatique, en particulier dans le cadre du TNP dont on parlait tout à l'heure. On a une dissuasion, mais dans le même temps, on a des engagements, et notamment faire en sorte qu'il y ait de limiter les risques de conflits nucléaires, de faire en sorte que les arsenaux soient contraints dans une certaine manière, au niveau quantitatif si possible, au niveau global bien sûr, etc. Donc s'engager à ce qu'il y ait des règles que l'ordre nucléaire global ne soit pas une vaste anarchie, mais qu'il y ait un maximum de règles. Ça, c'est un objectif qu'a la France, c'est un objectif qui est aussi central pour de nombreux partenaires européens avec lesquels, justement, on veut travailler. On pense évidemment, par exemple, à l'Allemagne. Et donc, c'est important que la France montre qu'elle est active à ce sujet-là, qu'elle est sensible à ces arguments et qu'elle elle fait des efforts dans ce domaine. Après, il y a l'autre aspect de la maîtrise des armements qui est de dire que c'est une clé de sécurité pour nous. C'est pas juste négocier pour faire baisser les arsenaux dans l'absolu et dire qu'on est sur une pente descendante par rapport à la fin de la guerre froide, mais c'est également dire qu'il y a des systèmes qui nous dérangent chez des adversaires potentiels. On aimerait que ces systèmes soient encadrés, ou des pratiques, ou un ensemble de choses. On aimerait qu'il y ait des règles pour justement limiter la dangerosité de l'ensemble. Et là-dessus, c'est quelque chose... qui traditionnellement c'est assez peu fait avec les partenaires européens, même si ça concernait souvent le continent européen. C'est quelque chose qui pendant la guerre froide étaient principalement américano-soviétiques. Depuis, ça c'est beaucoup de règles ont continué d'être appliquées au niveau américano-russe. Et l'Europe a toujours constaté que beaucoup de règles constataient son territoire, mais qu'elle n'avait pas forcément eu beaucoup son mot à dire sur ce qui était négocié. Là, c'est vraiment une...
Alors, on va le dire, c'est notamment toute la crise des euromissiles dans les années 80. C'est-à-dire l'idée que, en fait, l'Europe, se situant à mi-chemin, pourrait être le champ de bataille nucléaire si ça finissait par exploser. Donc c'est depuis, on reviendra dessus, mais c'est depuis qu'il y a un certain nombre de traités qui ont été mis en place. Et donc là, c'est en quelque sorte un appel à ce que ce potentiel champ de bataille se saisisse d'une certaine marge de manœuvre, quoi, c'est ça ?
Voilà, et c'est quelque chose qui est aussi présent. Les Allemands, par exemple, en ce moment, ont un peu la même démarche de dire, il faut qu'on ait une idée de ce qu'on veut, de ce qui nous menace, de ce qu'on aimerait pouvoir négocier, etc. Et donc, davantage peser au sein de l'Alliance Atlantique, mais de manière globale, encore une fois, sur les règles qui peuvent être appliquées.
Comment t'as mis ça ?
Moi, je pense que cette articulation avec les alliés est particulièrement importante, parce que, là encore... Il faut la replacer dans l'objectif de renforcer la culture stratégique européenne et des partenaires européens. Parce qu'on n'a pas les mêmes réactions face à la dégradation de l'environnement stratégique. Et en fait, de manière répétée, de manière constante, on se heurte à nos différences de culture stratégique avec, par exemple, les Allemands, sur la meilleure manière de répondre à, par exemple, à la réémergence de la Russie comme rival potentiel. Et là où les Allemands auront tendance à placer la priorité sur la maîtrise des armements, avec une Russie dont on voit bien que la maîtrise des armements, c'est à géométrie variable, on va dire. Nous, on insiste de manière régulière et sur la nécessité de la dissuasion nucléaire pour répondre à ça. Et donc, il faut trouver un moyen de faire dialoguer les deux. Et ça a été très compliqué, et ça reste assez compliqué, même sur le FNI. Je pense qu'il y a l'objectif de Emmanuel Macron et de l'administration, en fait, dans son ensemble, il répond à ce processus d'érosion de l'architecture de maîtrise d'armement qu'on voit, qu'on observe depuis des années, qui n'est pas simplement nucléaire. Qui est conventionnel et nucléaire, qui est pour partie naturel, parce que ça paraît pas aberrant que des traités qui ont été conclus, signés, négociés, etc., il y a 30 ans ou 35 ans, ne correspondent plus aux réalités militaires d'un moment. Donc il y a une dimension naturelle. Mais il y a plus que ça, et ça affecte quand même nos intérêts de sécurité. Et c'est l'un des problèmes, des aspects préoccupants et qui explique pourquoi ce dialogue doit être conduit avec les Européens, c'est qu'on a non seulement une attitude russe de contournement, violation assez systématique, mais aussi des alliés américains qui, eux, accélèrent cette tendance, pas forcément de manière... constructive systématiquement.
Ouais, alors allons-y et détaillons en fait plus ce panorama que vous venez d'esquisser et au milieu desquels on a bien compris qu'il était question pour Emmanuel Macron que l'Europe reprenne une place. C'est-à-dire, si on l'avait enregistré mi ou fin février, on aurait probablement fait une émission un peu différente puisque automatiquement, cette situation-là a été actualisée un peu, même si on voyait ça à venir, notamment à partir du 21 mai, enfin le 21 mai, Donald Trump et Mike Pompeo ont annoncé que les États-Unis se retiraient du traité Open Sky, c'est-à-dire un des traités internationaux de surveillance et de contrôle des armements. Enfin, ça s'inscrit dans un ensemble général, on les détaillera les uns après les autres. Mais peut-être commençons par dire, puisque c'est la dernière actualité en date et qu'on a pas mal glosé autour de ça, disons, qu'est-ce que c'est que ce traité et quelle importance réelle est-ce qu'on peut donner à ce retrait, Corentin Brosselin?
Le retrait américain du traité ciel ouvert, il est intéressant à plusieurs titres. Le traité ciel ouvert, c'est un traité qui s'inscrit dans le cadre de l'architecture de transparence et des mesures de confiance qui ont été mises en place un peu dans l'esprit du document de Vienne de 92 également, qui prévoit de la transparence entre les anciens adversaires, donc les pays membres de l'OTAN et du pacte de Varsovie, sur notamment les exercices, leurs exercices militaires avec des notifications et avec la présence d'observateurs, par exemple, qui sont invités. Le traité ciel ouvert, l'idée date des années 50, c'était une proposition américaine qui avait été rejetée assez vite. L'idée est simple, on fait des survols, on organise des survols du territoire des uns des autres par des avions avec des capacités, avec des capteurs, notamment des capteurs optiques, mais pas uniquement des capteurs optiques, pour montrer qu'on n'a pas de mauvaises intentions, d'intentions cachées, et qu'on n'est pas en train de préparer une agression concrètement. Et donc c'est un acte de transparence réciproque pour rassurer et pour établir des relations de confiance sur le temps long. Donc ça implique concrètement, donc le traité est entré en vigueur en 2002 je crois, parce qu'il a fallu un certain temps pour qu'il se mette en place. Ça implique concrètement que chaque État membre a un certain nombre de... un quota de survol qu'il peut lui demander, qu'il peut conduire sur le territoire d'État parti et qu'il doit recevoir sur son propre territoire ou qu'il peut recevoir sur son propre territoire. Et donc ça peut se traduire de beaucoup de manières. Mais
donc si quelqu'un veut venir voir, il doit pouvoir venir voir.
Quoi. Si un État parti veut utiliser l'un de ses avions qui a été homologué avec les capteurs qui ont les propriétés et caractéristiques techniques qui sont considérées comme acceptables, c'est-à-dire qu'elles montrent des choses mais elles ne montrent pas trop. Ils volent à une certaine altitude, mais pas trop bas, parce que sinon ça accroît la qualité du renseignement. Donc il y a beaucoup de conditions qui sont définies dans le cadre du traité. Il faut le notifier au moins 72 heures en avance. Il faut convenir du plan de vol ensemble, etc., etc. Et donc il y a eu plus de 1500 vols qui ont eu lieu depuis le début, donc en une vingtaine d'années.
Mais donc bien suivi, les Américains ont dénoncé un certain nombre de violations de la part des Russes de ce traité. Donc, alors j'imagine que ça peut être soit dans ce qu'ils captaient, soit dans ce qu'ils autorisaient de la part des autres États. Et donc les États-Unis, en représailles en quelque sorte, ont annoncé qu'ils s'en retiraient. Quelles conséquences est-ce que ça... évidemment, c'est un message. Évidemment, on sent que l'heure n'est pas à la coopération sur la maîtrise des armements. Mais comment dire, ça a l'air un peu... anachronique, à l'ère où tout le monde a des, enfin toutes les principales puissances ont des satellites d'observation, notamment des satellites d'observation militaire, ce qui a vraiment besoin d'avoir des vols avec des avions homologués pour qu'ils voient un peu mais pas trop.
C'est ça le problème, c'est que les Américains n'en ont pas besoin pour leur propre renseignement, mais que la plupart des alliés n'ont pas de satellites et n'ont pas de capacité d'observation. Et donc, c'est l'un des aspects préoccupants de ce retrait, c'est qu'on sait très bien, fondamentalement, que le traité ciel ouvert n'apportait rien en termes opérationnels aux États-Unis. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire ça ensemble. C'est parce que les banques d'images qui sont recueillies, après, elles sont mises à disposition de tous les signataires. Et donc le renseignement...
Il y en a beaucoup, des signataires ?
34. Donc 34 pays membres, dont la France, évidemment. Mais l'idée, c'est que le renseignement que vous obtenez, vous pouvez le partager. Et ce renseignement partagé, quelque part, il permet d'obtenir des consensus. Il permet de montrer que l'un des États partis, par exemple, fait des choses qu'on trouve un peu louches. Par exemple, dans le cadre de la crise en Ukraine en 2014, il y a eu une vingtaine de vols qui ont été organisés dans le cadre de ciel ouvert sur la région russe qui bordait l'Ukraine pour voir ce qui s'y passait et constater un certain nombre de déploiements. Et donc, quelque part, quand les États-Unis prennent prétexte des violations russes où les Russes ont été pas particulièrement coopératifs sur certains cas, mais il y a eu une manière de faire a été trouvée dans le cadre de la commission qui existe pour résoudre ce genre de problème. Ce qui est préoccupant, c'est que fondamentalement, on voit que les Américains en sortent malgré une offensive de charme des Européens pour leur dire « nous, on tient au traité, en fait. On sait que vous n'y tenez pas, mais pour nous, c'est important. » et en fait, ça n'a servi à rien, parce que il y a vraiment un changement de philosophie aux États-Unis, en tout cas avec l'équipe actuelle, sur... l'intérêt que présente la maîtrise des armements et n'importe quelle norme internationale, en fait, dans un environnement plus compétitif.
Emmanuel Maître, là-dessus.
Oui, ça, c'est très visible. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant, cet exemple de l'Open Sky, parce que ça suit le cas du FNI et peut-être à la fin de l'année le cas du New Start. On va voir ce qui se profile, mais on ne peut pas être très optimiste. Deux aspects sur la manière. Les États-Unis agissent en effet sans se concerter vraiment préalablement avec les Européens, en tout cas sans prendre en compte leur avis. Et sur le fond, on voit bien qu'il y a deux... de philosophie ou de lignes d'arguments qui sont en ce moment porteuses à la Maison-Blanche, le fait que la Russie viole un certain nombre d'arguments s'est pris comme vraiment justifiant le fait de ne pas faire ce qui est considéré comme une forme de concession à leur égard en restant dans des traités que de toute façon ils violent, et si c'est pas celui-là qui viole, c'est un autre, donc de toute façon c'est pas des partenaires fiables, ça vaut vraiment pas le coup que les États-Unis entre guillemets se lient les mains ou acceptent des contraintes sur leurs propres capacités, etc. Donc là il y a vraiment un ensemble de conservateurs qui sont dans l'administration ou proches de l'administration qui vraiment défendent cette idée-là. On ne peut pas faire confiance à la Russie. Cessons d'être naïfs et cessons de les encourager en continuant de faire comme si de rien n'était et en signant de nouveaux accords. Et puis, l'autre courant de pensée qui n'est pas très très loin, mais qui rappelle les grandes heures de l'administration Bush qui sont encore visibles, c'est l'idée que de toute façon, les Américains n'ont rien à voir avec quelque autre que pays que ce soit, ils doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent, entre guillemets, et donc tout accord de maîtrise des armements, c'est une concession inutile pour des adversaires qui ne sont pas vraiment une menace en plus. Donc il n'y a vraiment pas de quoi accepter ce genre de traité.
Oui, mais alors continuons à détailler, puisque vous avez fait allusion à deux autres traités qui ont effectivement une actualité en ce moment. Alors, donc ce retrait du traité New Start vient en quelque sorte en deuxième vague d'une précédente annonce de retrait qui était intervenue l'été dernier, cette fois d'un traité qui, cette fois, est bilatéral avec la Russie, qui est le traité INF que vous avez cité aussi, Quentin, tout à l'heure. Donc le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, qui datait de 1987. Alors encore une fois, essayons de commencer par là. Qu'est-ce que c'était ce traité et pourquoi ce retrait ?
Le traité FNI, il avait été négocié à l'issue de la crise des euromissiles que vous aviez évoquée, qui visait à, la crise ne visait à rien. Le traité visait à débarrasser l'Europe d'un certain type de vecteur qui était perçu comme particulièrement déstabilisant, qui était les missiles sol-sol de portée intermédiaire, quelle que soit la nature de la tête d'ailleurs, de manière intéressante. Donc la portée intermédiaire, c'est entre 500 et 5500 kilomètres. L'origine de la crise, ça avait été l'introduction par les Russes des SS-20, donc des missiles propulsion solide, mobile, qui sont équipés chacun de trois têtes nucléaires et qui pouvaient en une quinzaine de minutes frapper des cibles européennes. Et l'un des aspects préoccupants, c'était précisément qu'ils étaient faits pour des cibles européennes. Donc derrière cette introduction, il y avait une crainte européenne d'un découplage stratégique entre leur sécurité et celle des États-Unis, dans la mesure où ces armes ne visaient pas les États-Unis. Donc elles auraient forcément tué quelques Américains au passage. Mais il y avait quand même une crainte que, du côté de l'Alliance, on n'avait pas de contre-mesure, on n'avait pas de capacité de réponse à cela.
Oui, c'était que l'Europe devienne la chair à canon des États-Unis, quoi.
Oui, et puis que, quelque part, les Russes, les Soviétiques, puissent toucher notre sweet spot et trouver le sweet spot qu'on n'ait pas de capacité de réponse, et donc on ait un problème de crédibilité fondamental et qu'ils puissent s'attaquer et qu'ils puissent mettre en pièce l'Alliance. Bon, suite à ça, la double décision a eu lieu en 1979, puis la double décision, ça a été la décision de l'Alliance à la fois de chercher une maîtrise des armements avec les Soviétiques, mais pour inciter les Soviétiques à accepter de retirer leur SS-20, notamment que l'Alliance se dote de ses propres capacités de missiles sol-sol de portée intermédiaire. Bref, tout ça, ça a abouti au traité FNI. Mais le traité FNI de 87, donc, qui éliminait tous les missiles sol-sol de portée intermédiaire. Et de manière intéressante, il n'y avait pas de restriction géographique. Et l'absence de restriction géographique, elle avait été débattue à l'époque, au moment de la conclusion du traité, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un traité qui se limitait à l'Europe, qui interdisait l'Union soviétique de déployer ses missiles SS-20 et ses SS-4 et ses SS-5 sur des zones qui auraient pu toucher l'Europe occidentale. Mais Elle aurait pu les déployer à proximité de l'Asie, par exemple.
Ouais, mais on imagine que ça aurait été plus facile, plus difficile à vérifier. Enfin, c'est-à-dire, alors que là, l'interdiction, c'est en fait, il faut juste pas les construire, quoi.
Il fallait vérifier qu'ils étaient détruits, surtout.
Aussi.
Mais pas forcément plus difficile à vérifier, mais disons que ça aurait impliqué un mécanisme de vérification constant, pour le coup. C'est-à-dire qu'il fallait vérifier de manière routinière que les...
Oui, parce que je veux dire, les missiles, ils sont pas posés en haut d'une montagne, quoi. Enfin, ils étaient enterrés, enfin, ils étaient cachés. Enfin, ça aurait impliqué un vrai processus de désarmement et de vérification dans des zones où c'était pas évident, quand même.
Bah, en fait, il a eu lieu, ce processus de désarmement et de vérification. C'est-à-dire que tous les vecteurs, quels qu'ils soient, ont été identifiés, inventoriés, détruits, etc., etc. Donc, ça aurait posé des challenges. Mais surtout, c'est les alliés asiatiques des États-Unis, et notamment le Japon, qui n'étaient pas, évidemment, pas favorables. Toujours est-il que la conséquence, c'est que le FNI n'avait pas de limite géographique. Et que l'absence de limite géographique, ça a fait que 30 ans plus tard, quand... l'Asie est devenue le point d'attention majeur des États-Unis et la Chine, le rival stratégique. Le Pentagone s'est trouvé et se trouve encore en situation où ils observent que la Chine dispose de pléthore de ce type de capacité, là où eux ne pouvaient pas en disposer jusqu'à présent. Et donc, il y avait un argument en partie rationnel, en tout cas, qui est audible, je trouve, qui consistait à dire on est tenu dans une compétition. La principale compétition n'est plus avec la Russie, mais avec la Chine aujourd'hui. Et dans cette compétition-là, ce traité nous handicap.
Mais alors, parallèlement, il y a aussi un deuxième argument qui a été avancé, justement, par rapport à la Russie. C'est toujours l'argument que la Russie tricherait. Alors, notamment, il y a eu l'évocation de violation par la construction d'un missile dont j'ai perdu la référence, mais qui était
929.
Voilà, je savais que je le perdrais. Mais alors, qu'est-ce que c'est peut-être que ce missile et en quoi est-ce que il démontrait ou montrait une sorte de, si ce n'est de double jeu, mais en tout cas un éloignement de la Russie par rapport à l'esprit, en tout cas, du traité INF.
Voilà. Là, c'est assez intéressant parce que pour le coup, il y a eu une forme de concertation entre les États-Unis et leurs partenaires. Les partenaires ont soutenu Washington dans le verdict qui a été posé sur cette crise de la violation du traité FNI, puisque depuis en fait plusieurs années, presque un petit peu moins de 10 ans, enfin 7-8 ans, l'administration Obama avait commencé à dire on a un problème sur un système russe qui aurait été testé en fait sur un lanceur terrestre sur une distance prohibée, ce qui était interdit. Et donc l'administration Obama avait eu comme stratégie d'essayer de résoudre la crise de manière un peu discrète, de manière diplomatique avec la Russie. Et puis...
En disant ce missile-là, il est repassé.
Voilà, il faut faire quelque chose. Ouais. Peut-être en se disant, il y a peut-être le bénéfice du doute, peut-être que c'était pas une violation volontaire, peut-être que... parce que en plus, il n'y avait pas forcément un argument majeur pour que la Russie développe ce système-là. Ça paraît pas un truc qui est ni révolutionnaire.
Donc ce système, on va dire, l'infraction, c'est que c'est un missile qui a l'air de pouvoir aller entre 500 et 5500 km.
Oui. Et qui peut fonctionner sur un lanceur terrestre, qui était le détail, entre guillemets, qui rendait le système contraire au traité. Donc c'était pas une violation qui militairement a une signification massive comme le déploiement de SS-20 dans les années 70. C'est quelque chose qui est un peu anecdotique et donc on pouvait se dire peut-être qu'on peut régler les choses en discutant. Bon, au final, il y a rien qui n'a progressé. La Russie, de manière ouverte, a nié l'existence du système et de tout système prohibé jusqu'à maintenant. Et l'administration donc, Trump a choisi de faire les choses différemment et de menacer de se retirer, et donc a rendu la controverse beaucoup plus publique.
Oui, mais alors on peut peut-être juste détailler ça, parce que c'est intéressant. C'est ce que vous avez fait allusion au fait que le problème, c'est que ce soit un lanceur terrestre. C'est-à-dire, ces missiles-là sont interdits émanant d'un lanceur terrestre, mais pour autant ils ne sont pas interdits émanant d'un sous-marin ou d'un navire, etc. Donc, c'est-à-dire, en quoi est-ce que le fait que ce soit un lanceur terrestre soit particulièrement intéressant et stratégique, pourquoi est-ce que la Russie cherche à contourner ça, et pourquoi est-ce que ça, au-delà du respect de la parole donnée, du respect d'un traité, pourquoi est-ce que ça gêne les partenaires, ou en tout cas les observateurs, l'idée qu'il puisse y avoir un développement d'une capacité stratégique dans ce créneau-là?
Mais disons qu'à la base, c'était la combinaison des différentes caractéristiques qui faisait du SS20 un élément préoccupant et déstabilisateur, c'est-à-dire à la fois le fait que ça soit taillé pour l'Europe. Donc si c'est terrestre, déjà, vous n'allez pas le redéployer à proximité des États-Unis. D'accord. Vous n'allez pas le. Une fois qu'il est déployé, bon, c'est mobile, mais c'est pas non plus. Ça voyage pas 2000 km tous les jours non plus. Donc, vous avez quand même une idée que, contrairement à des vecteurs qui sont mer-sol ou air-sol, il y a un ancrage qui fait que on voit à peu près la nature des cibles qui pourraient s'y porter, qui pourraient être visées. L'un des problèmes qui est posé par les lanceurs sol-sol, et en particulier à propulsion solide, c'est la vitesse de vol. C'est-à-dire que, encore une fois, le SS-20, ça menaçait des cibles européennes sur très très court préavis. Et donc la crainte, c'était une attaque surprise. C'est plus compliqué, pour des raisons de contrôle et de commandement, de monter une attaque surprise qui viserait l'Europe à partir de bombardiers stratégiques et de sous-marins nucléaires, parce que par rapport à pour des raisons de planification, pour plein de raisons, qu'avec des lanceurs sol-sol. On maîtrise beaucoup mieux la communication, on peut la faire de différentes manières, bref, la communication, la transmission de l'ordre, par exemple. Donc tout un tas de raisons qui font que les missiles sol-sol peuvent être plus facilement utilisés pour... relativement aisément utilisé pour des attaques surprises. Maintenant, ça pose beaucoup de questions, et la discussion sur la violation qui n'a pas été évidente sur la violation russe n'a pas du tout été évidente, parce que la Russie avait un système de missiles de croisière qui est censé sol-sol, prévu pour une portée de 480 km, et en fait... concrètement, ça ne veut pas dire grand-chose d'avoir un missile d'une portée de 480 km, parce que vous savez très bien que si vous faites varier le poids de la tête à l'intérieur, et donc la quantité d'explosifs emportés par le missile, vous pouvez le faire porter un peu plus loin. Donc il y a toute cette série d'arbitrages qui existent. On sait qu'il y a toujours une latitude possible, mais là, ce qui a changé politiquement, c'est qu'il y a eu une admission collective au sein de l'Alliance que la violation était une violation significative, c'est-à-dire qu'elle allait, on n'était pas sur 550 km de portée.
Non, mais ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'il faut rajouter évidemment un troisième player dans l'équation, qui est la Chine. C'est-à-dire, on comprend que la Chine n'étant pas liée par ce traité, vu, disons, l'augmentation vertigineuse des capacités militaires et stratégiques de la Chine depuis quelques années. On comprend qu'il y a une sorte d'inquiétude, d'un décalage qui augmente par rapport à ça. Alors, disons, donc, est-ce que ça répond à un vrai truc, c'est-à-dire à un vrai danger, un vrai risque, parce que la Chine se développerait ça et que les deux autres très grandes puissances, disons, ne l'auraient pas? Ou est-ce que c'est, disons, plutôt quelque chose de prospectif pour se délier les mains au cas où il y aurait besoin de monter en gamme rapidement là-dessus? Emmanuel Maître?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a des raisonnements militaires qui sont faits sur l'intérêt réel de ce genre de système, mais il y a aussi quand même une vraie ambition politique de pouvoir disposer d'une gamme complète, et surtout de ne pas être démuni face à cette augmentation des arsenaux chinois sur ce type de domaine, de pouvoir rester dans une forme, même si on n'est pas du tout dans une logique de parité, mais de dire voilà, il n'y a pas un trou dans la raquette sur les capacités en Asie. Donc il y a un peu des deux, un aspect politique qui est important, qui est d'ailleurs, on le voit, sous l'administration Trump, qui a eu beaucoup plus de poids que ce qu'il pouvait avoir, par exemple, sous l'administration Obama, et peut-être qu'il aurait sous une autre administration démocrate. Ce qui a fait que c'est à ce moment-là que l'administration a choisi de sortir du traité. Le rôle militaire, il existe, il n'était pas forcément... ça ne justifiait pas forcément de sortir si la Russie n'avait pas commis de violations préalables.
Le rôle militaire n'épuise pas la question, parce qu'effectivement, l'un des problèmes qui se pose aujourd'hui, qui se posera aux États-Unis, c'est, OK, une fois qu'ils auront les capacités sol-sol intermédiaires pour répondre au missile gap qui les oppose en théorie à la Chine, il faut encore trouver des terres sur lesquelles les déployer.
C'est-à-dire qu'il faut trouver un endroit à moins de 5500 km de la Chine.
Oui. Voilà. Donc, il y en a un certain nombre.
j'ai deux, trois idées en tête.
Il y a quelques idées, mais ce n'est pas une décision politiquement facile à prendre, pour, en particulier avec cette administration américaine, il faut être franc. Donc, quand vous avez les États-Unis qui font ouvertement une forme de chantage vis-à-vis de la Corée du Sud ou du Japon sur la facture à payer pour maintenir les bases sur place, ça fragilise l'aptitude des gouvernements locaux à vendre quelque part, à défendre leurs orientations et le maintien de cette alliance vis-à-vis de leurs opinions publiques. Et donc, si vous ajoutez par-dessus l'idée qu'on va déployer des systèmes dont tout le monde va dire qu'ils sont conventionnels, mais qui vont être présentés comme étant potentiellement nucléaires par la propagande des uns et des autres, et qui seront techniquement probablement à potentiel nucléaire, là vous rentrez dans des problèmes sans fin. Et c'est le cas en Asie, mais c'est aussi le cas en Europe, c'est-à-dire que pour l'instant l'introduction de systèmes équivalents au sein de l'Alliance n'est pas évoquée, aussi parce que la montée en puissance des missiles russes de cette gamme-là apparaît plutôt lente pour l'instant. C'est plutôt un build-up assez progressif. Et pour l'instant, le diagnostic qui est fait, c'est que même si ce sont des missiles à capacité duale, on estime que la raison pour laquelle les Russes s'en dotent, c'est plutôt pour avoir des capacités de frappe conventionnelles à longue portée, plutôt que du nucléaire, où ils ont déjà un certain nombre
d'options. Par exemple, au hasard, en Europe de l'Est et du Sud, ou encore en Syrie.
Par exemple, des capacités qui ont été démontrées un certain nombre de fois dernièrement.
Et enfin, il faut peut-être terminer par le dernier grand traité, donc un troisième traité, qui est pour le coup un traité qui est vraiment très structurant, très important historiquement, qui est le traité New Start, qui a été signé en 2010, ratifié en 2011, qui est un traité de réduction des armes stratégiques, des arsenaux nucléaires. C'est un peu le dernier dans une longue suite de traités américano-russes de réduction des armes nucléaires depuis les années 70, mais c'est un traité qui arrive à expiration, qui semble pas forcément, on l'a évoqué tout à l'heure, sur une autoroute pour être prolongé tout de suite. Alors, pourquoi, comment, et est-ce que, disons, son déclin, son inquiétude qu'on peut formuler à son sujet, pourrait commencer à déclencher une réinflation, disons, des arsenaux nucléaires, Emmanuel Maître?
Alors, ce qui est intéressant avec le New Start dont on parle, c'est que contrairement au FNI, il n'y a pas d'accusation de violation ni d'une part ni de l'autre. Donc la situation est quand même très différente. La Russie a signalé plusieurs fois qu'elle souhaitait l'étendre d'au moins 5 ans, donc, puisque c'est une possibilité qui est offerte au sein du traité de l'étendre sans avoir à renégocier ses termes ou repasser par le Congrès américain ou quoi que ce soit. Le président peut décider de l'étendre et c'est a priori pareil en Russie. Donc c'est... Étant donné que pour l'instant aucun traité successeur n'a été négocié, donc une forme de Start 4 ou quelque chose qui pourrait prendre la suite, et que c'est absolument peu probable que ce le soit dans l'année qui vient, puisque ce sont généralement des traités qui prennent plusieurs années à être négociés, tout le monde quasiment appelle, donc en Russie, en Europe, dans beaucoup de centres américains, bien sûr en particulier au sein du Parti démocrate, appelle à tout le moins à étendre pour se donner le temps après de réfléchir à une extension, d'adapter le traité à ce qui peut l'être en termes d'armement, en termes de parties prenantes, etc. Néanmoins, c'est vrai que pour l'instant, on peut être assez pessimiste, puisque l'administration américaine a toujours dit qu'il y avait largement le temps, qu'on verrait ça plus tard, et surtout lie de plus en plus la question à l'intégration de la Chine dans le processus de maîtrise des armements stratégiques. Or, la Chine a... décrété très clairement qu'elle avait aucune intention de...
Donc juste pour le dire, il s'agit de limiter le nombre de têtes, le nombre de vecteurs. Bon, là, ça lie les États-Unis et la Russie pour des raisons évidentes qui sont que ce sont des kilomètres les plus gros possesseurs. L'idée, c'est qu'il faudrait intégrer, il faudrait contraindre la Chine aussi par ce genre de traité.
Mais le problème, c'est que la Chine est bien loin, comme vous le disiez à l'instant, des arsenaux. Donc comment le faire? Comment réfléchir à un accord comme ça, un peu cadre stratégique qui pourrait avoir des plafonds acceptables?
Vous voulez dire, parce que les deux ont les mêmes plafonds, mais si on met les mêmes plafonds à la Chine, ça ne va pas les contraindre beaucoup.
Ça ne va pas les contraindre du tout. Et ça va même
les inviter à
augmenter, ce que ni les Russes ni les Américains, d'ailleurs, ne supporteraient très longtemps. Donc pour l'instant, il n'y a aucune perspective de maîtrise des armements avec la Chine. Et le fait que les Américains disent de plus en plus souvent, ouvertement et publiquement, qu'ils n'envisagent pas de prolonger START, ou en tout cas d'avoir un cadre sans la Chine, ça semble dire qu'ils sont prêts à l'abandonner l'année prochaine. En tout cas, c'est la lecture politique qu'on peut en faire pour l'instant.
Quant à moi, ça.
D'autant plus au regard du contexte où, encore une fois, on voit... On n'a pas parlé de JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien, mais c'était le premier à tomber.
C'est un chapitre un peu substantiel, je me suis dit qu'on...
Non, mais je n'entends pas en parler, mais au moins le mentionner, parce qu'il y a une cohérence très nette de ce point de vue-là. À défaut de voir une stratégie se dégager du point de vue des États-Unis, on voit une cohérence très nette et un acharnement, à mon sens. Donc, quelque part, ça n'augure rien de bon pour New Start.
Et pourquoi ? Parce que ça les intéresse plus, parce que symboliquement, ça leur déplaît, enfin, ça déplaît à cette administration d'avoir des limites en termes de nucléaire, parce que les traités internationaux, ça les intéresse pas. Ou parce qu'il y a, par exemple, si on prend Start, ou parce qu'il y aurait une envie de monter, je sais pas, hein, ça prend de temps en temps des administrations, notamment des états-majors, l'idée de vouloir augmenter la puissance nucléaire pour des raisons qui...
Je pense que, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, il ne faut pas chercher une raison unique et cohérente. Vous avez différents courants qui se retrouvent au sein de l'administration et qui ont des objectifs pas forcément identiques et des philosophies pas forcément identiques, mais qui se retrouvent à converger autour de décisions, comme sur la maîtrise des armements, où en fait, au sein de l'administration, il n'y a pas grand monde qui croit à cet instrument-là. Mais vous en avez quelques-uns qui essaient de développer, en tout cas qui essaient de vendre un discours disant que la maîtrise des armements... ils n'y sont pas opposés.
Mais ça veut dire quoi, ils ne croient pas à la maîtrise des armements ? Enfin, je veux dire, si le traité des New Start est... Enfin, je veux dire, si tout le monde limite le nombre de têtes nucléaires qui produit, enfin bon, on comprend bien l'intérêt d'équilibre de puissance, ça peut-être que certains sont en désaccord, mais ça a aussi des intérêts d'économie qui sont très réels.
Oui, mais la philosophie qui se trouve derrière, c'est... on est dans une ère de compétition stratégique. Quels sont nos avantages comparatifs ? La Russie n'a pas la capacité de rentrer dans une course aux armements avec nous. Si jamais, et d'ailleurs ce n'est pas la priorité, donc on ne va pas contraindre nos capacités simplement pour les beaux yeux de la Russie, parce que fondamentalement, elle ne nous préoccupe pas plus que ça. Et que si jamais on rentre dans une course aux armements, eux ne vont pas tenir et nous, on pourra tenir. Concrètement, c'est un peu cette idée-là. La vraie préoccupation, c'est la Chine, qui paradoxalement, encore une fois, a un arsenal beaucoup plus petit. Mais les États-Unis essaient de voir à la fois la montée de la Chine et la stabilité de la Russie, qui est une stabilité un peu faussée d'ailleurs, parce que j'ai envie de dire, la Russie non seulement maintient ses arsenaux, mais en plus elle développe tous les systèmes qu'on n'a pas évoqués, qui ont été annoncés par Vladimir Poutine en mars 2018, des systèmes qu'on appelle exotiques, avec des technologies nouvelles, que ce soit du planeur hypersonique au sommet d'un missile sol-sol intercontinental. Le missile à propulsion nucléaire, on apprécie la proposition, qui a donné lieu à un accident à l'été dernier en Russie, une torpille nucléaire, des missiles balistiques aéroportés, etc. Donc il y a eu pléthore d'annonces russes qui ont été faites en parallèle à la demande russe disant « New Start, nous on veut le garder ». Ces traités-là, ces capacités-là ne sont qu'en partie dans New Start. Donc elles vont être en partie soumises aux mesures de transparence prévues dans New Start, mais uniquement en partie, mais c'est légal. On n'est pas bloqué par ça. Donc quelque part, la Russie a joué un jeu un peu... a joué avec le feu, parce qu'ils ont...
Formulé comme ça, on a presque l'impression que c'est pour énerver les autres.
Je pense que une partie de l'ambition russe, c'était à la fois de... Il y avait beaucoup d'objectifs qui étaient poursuivis. Il y avait une dimension de statut, c'est-à-dire on veut montrer que technologiquement, on n'est pas complètement largué derrière les Américains et les Chinois. Il y avait aussi l'idée qu'il faut forcer les Américains à engager une maîtrise des armements parce que... et un discours plus large sur la maîtrise des armements, pas simplement sur le nucléaire, pas simplement sur les forces offensives, mais aussi sur les forces défensives. Tout ça, c'est des vieilles demandes russes pour lesquelles ils ont peu de leviers à exercer auprès des États-Unis. Et donc, moi, j'y vois une tentative de faire ça, mais une tentative qui a suscité un retour de bâton qui est non négligeable. C'est-à-dire que maintenant, aux États-Unis, vous avez des gens qui pointent du doigt ces mêmes systèmes en disant « Ah, mais la Russie contourne New Start. » En fait, la Russie se développe son arsenal nucléaire en dehors de New Start. Donc, en fait, New Start n'a plus la pertinence qu'il avait auparavant. Et donc, vous avez un certain nombre de personnes aux États-Unis qui disent « De toute façon, New Start, à part la transparence qui fait partie du traité, des inspections réciproques, etc., les contraintes sur les capacités ne sont pas très exigeantes de part et d'autre. Les capacités de monter en gamme, de monter quantitative de la part de la Russie sont relativement limitées, et on peut nous aussi le faire, y compris avec des dépenses relativement restreintes. Et fondamentalement, vu que l'objectif c'est de contraindre la Chine, il faut faire table rase. Et c'est en faisant table rase de nos engagements qu'on est dans la meilleure posture de compétition vis-à-vis de la Chine. Et là, si on fait table rase de tous nos engagements de maîtrise des armements, fondamentalement, ils vont commencer à se préoccuper et peut-être qu'ils vont accepter de rentrer dans un dialogue avec nous. Ça, c'est la vision aussi construite et rationnelle que je peux présenter, étant entendu, encore une fois, que il y a, à mon sens, des préoccupations beaucoup plus basiques qui sont dans l'esprit du président, par exemple.
Emmanuel Maître ?
Oui, y compris notamment faire plaisir à un électorat pour un certain nombre de sénateurs hyper nationalistes qui supportent tout simplement pas que l'Amérique soit contrainte d'une manière ou d'une autre. Donc il y a toute une frange de sénateurs qui essaye d'abattre la maîtrise des armements avec des propositions de loi assez régulières. Donc on voit bien qu'il y a un aspect politique, y compris tuer un accord qui avait été signé par le président Obama. Ça, c'est aussi un objectif qui est sans doute assez présent au Congrès et au sein de l'administration. Donc tous ces facteurs politiques, vraiment, en plus en année électorale, aux États-Unis, jouent sans doute autant que les considérations stratégiques.
Très bien, bon, alors on a compris qu'il y a un certain nombre d'actualités à suivre. Alors il y a évidemment le retrait d'Open Sky, il y a cette question du traité INF, et puis il y a surtout le traité New Start qui arrive.
INF, c'est mort. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais je crois qu'ils font pas.
J'y crois toujours pas. Vous êtes pessimiste, Quentin. Mais donc le traité New Start qui arrive à échéance l'an prochain, et dont on suivra évidemment si ce n'est la reconduction, au moins la prolongation ou non. Merci donc à tous les deux.
Voir l'absence de sortie américaine. Il leur reste quelques semaines pour pouvoir sortir du traité. Souhaitons qu'ils ne s'emparent pas de cette opportunité-là.
Merci beaucoup à tous les deux. C'était le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM et qu'on apprécie toujours vos notes et vos commentaires, notamment sur iTunes, qui aide à faire vivre et à propager la bonne parole de ce podcast, en plus de nous fournir des suggestions parfois très intéressantes sur ce que vous aimeriez y voir davantage. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.